Service. Alors pour ceux qui sont là depuis, qui sont venus les dernières semaines, nous continuons notre traversée du désert. Nous examinons plutôt celle des Israélites, le peuple appelé par Dieu à lui appartenir, à être son peuple, un peuple délivré de l'esclavage en Égypte et conduit par Dieu vers la terre qu'il lui a promise. Et lorsqu'on regarde un petit peu la Bible dans son ensemble, on se rend compte que cette histoire n'est pas, c'est pas une fin en soi. En fait, l'histoire de la délivrance du peuple d'Israël d'Égypte, l'Exode et puis son arrivée ensuite dans la terre promise, est la version miniature, en quelque sorte, de ce à quoi, en définitive, Dieu appelle toute l'humanité. Et nous en redirons quelques mots. Je vais lire tout à l'heure le texte, mais tout d'abord un bref rappel. Nous avons vu que le peuple donc est dans le désert. Moïse est son leader, son chef, selon la vocation que l'Éternel lui a donnée. Et Moïse est aussi le médiateur de la loi de Dieu. C'est-à-dire que c'est celui qui transmet au peuple les directives de l'alliance que Dieu veut conclure avec lui. Cette loi, elle a pour but de préparer le peuple en vue de vivre sa vocation justement d'être le peuple de Dieu dans un pays promis et d'être ainsi le témoin de Dieu parmi toutes les nations. Il y a deux semaines, Mario a montré dans son message que le rôle de médiateur de Moïse est physiquement représenté par le fait que Moïse va être appelé à monter. Excusez-moi, je vais essayer d'ajuster ma Bible une fois pour toutes. Voilà. J'arrête de m'embêter. Très bien, voilà. Ne me citez pas quand je dis ça. Moïse donc va monter en haut de la montagne. Il va recevoir les directives de Dieu et puis il va redescendre auprès du peuple. Et ce mouvement de haut en bas va se répéter plusieurs fois. Et dans l'épisode de ce soir, nous voyons Moïse à nouveau monter en haut de la montagne pour recevoir les instructions de l'Éternel. Mais en fait, pendant ce temps-là, le peuple, en bas, au pied de la montagne, fait n'importe quoi. Et je vous propose de lire donc des extraits du chapitre 32 du livre de l'Exode. Nous sommes à la page 83 dans les Bibles bleues qui doivent être près de vous. Page 83 jusqu'en haut de la page 85, mais je lirai des extraits de ce texte. Tout d'abord donc les versets 1 à 14. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter d'Égypte, nous ne savons pas ce qui est advenu de lui. Aaron leur dit, « Enlevez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Tous les gens du peuple enlevèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Celui-ci prit l'or de leurs mains, le façonna au burin et fit un torillon de métal fondu. Puis ils dirent, « Voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant le torillon et s'écria, « Demain, il y aura une fête pour le Seigneur. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de paix. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Le Seigneur dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple, celui que tu as fait monter d'Égypte, s'est perverti. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un torillon de métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit « Voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. » Le Seigneur dit à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple rétif. Maintenant, laisse-moi faire. Je vais me mettre en colère contre eux, je les exterminerai et je ferai de toi une grande nation. » Moïse chercha à apaiser le Seigneur son Dieu. Il dit « Seigneur, pourquoi te mettre en colère contre ton peuple ?» Alors que tu l'as fait sortir d'Égypte par une grande puissance, par une main forte, pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes, et pour les exterminer, pour les faire disparaître de la terre? reviens de ta colère ardente. Renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en faisant un serment par toi-même, « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé, et ce sera son patrimoine pour toujours. » Alors le Seigneur renonça au mal qu'il avait parlé de faire à son peuple. Un petit peu plus loin, au verset 19 et 20. Comme il approchait du camp, Moïse vit le taurillon et les danses. Alors Moïse se mit en colère. Il jeta les tablettes et les brisa au pied de la montagne. Il prit le taurillon qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en une poussière qu'il dissémina sur l'eau et le fit boire aux Israélites. Versets 25 à 35. Moïse vit que le peuple était incontrôlable, car Aaron l'avait laissé devenir incontrôlable. Il allait être la risée de ses adversaires. Moïse se tint debout à la porte du camp et dit « Ceux qui sont pour le Seigneur, à moi !» Tous les fils de Lévi se rassemblèrent autour de lui. Il leur dit « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, passez et repassez dans le camp, d'une porte à l'autre, et tuez qui son frère, qui son ami, qui son parent. » Les fils de Lévi firent ce que Moïse avait dit. Ce jour-là, il tomba environ 3000 hommes parmi le peuple. Moïse dit « Soyez investis aujourd'hui pour le Seigneur, chacun même, au prix de son fils ou de son frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Maintenant, je vais monter vers le Seigneur. Peut-être pourrais-je faire l'expiation pour votre péché. » Moïse revint vers le Seigneur et dit, « S'il te plaît, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux d'or. Si maintenant tu voulais bien pardonner leur péché, sinon, je t'en prie, efface-moi de ton livre, celui que tu as écrit. » Le Seigneur dit à Moïse, « Celui que j'effacerai de mon livre, c'est celui qui a péché contre moi. Maintenant va, conduis le peuple où je t'ai dit. Mon messager marchera devant toi, mais le jour où j'interviendrai, je leur ferai rendre des comptes pour leur péché. » Le Seigneur frappa le peuple d'un fléau, parce qu'ils avaient fait ce taurillon, celui qu'Aaron avait fait. Il y aurait tellement à dire sur ce texte, et vous aurez remarqué que c'est pas forcément le texte le plus facile, a priori. Je voudrais relever brièvement quatre éléments dans ce texte, et forcément on ne fera pas justice à tout ce qui pourrait être dit. Quatre éléments donc, une imposture, un avocat, un châtiment, une grâce. Premièrement, une imposture. La Bible nous présente Dieu comme le tout autre, le créateur dont nos vies dépendent, celui qui est à l'origine même de tout ce qui existe. Par définition, nous ne pouvons pas contrôler Dieu, puisqu'il est avant nous, c'est lui notre créateur. Il nous échappe. Jamais nous ne pourrions nous hisser au niveau de Dieu. Et donc, logiquement, pour que nous puissions le connaître, il faut que lui vienne vers nous. Et c'est ce qu'il a fait dans ce récit de l'Exode. Il est allé vers le peuple d'Israël. Il a symboliquement établi sa résidence au sein de ce peuple dans le désert. Mais tout en étant présent parmi son peuple, Dieu est tout autre. Il est saint. Et la rencontre se fait selon ses directives et pas selon les directives, pas selon ce que le peuple a envie de faire. Pour prendre un exemple extrêmement imparfait comme la plupart des exemples, si vous êtes convoqué par le Premier ministre pour un entretien, vous n'allez pas appeler Matignon en disant « Alors voilà, est-ce que vous pouvez transmettre au Premier ministre les indications pour aller chez moi ?» C'est métro Intel, ensuite vous faites 500 mètres à pied, code 47Z62, quatrième étage, deuxième porte du milieu côté gauche. Est-ce qu'il peut venir samedi matin à 11h ? Parce qu'à 10h30, je sors de la douche, donc 11h, ça sera parfait. Évidemment non. Si vous êtes convoqué pour recevoir quelque chose de quelqu'un, ou par quelqu'un qui est en position de supériorité, c'est vous qui devez accepter les termes de la rencontre. Et donc, à infiniment plus forte raison, c'est le cas avec Dieu. Mais voilà, le peuple dans le désert aimerait bien avoir un Dieu qu'ils peuvent contrôler. Un Dieu qui donne des bénédictions quand ils en ont envie. Un Dieu qui soit un peu comme un distributeur de boissons. On fait un petit sacrifice, un petit rituel, un peu comme on mettrait une pièce. Et hop, on a fait sa bonne action. Et du coup, on peut s'attendre à des bonnes choses dans la vie. Un Dieu qui nous laisserait faire ce qu'on veut. qui surtout ne nous dérange pas, mais que par contre nous pouvons solliciter quand nous avons envie d'un petit bienfait ou d'un grand bienfait, d'une faveur. Ce que je dis là n'a rien à voir, bien sûr, avec nous, et je suis sûr que nous n'avons jamais une telle attitude par rapport à Dieu. Tu parles. Le peuple, nous dit le verset 1, vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Et donc, il se rassemble autour d'Aaron et lui dit « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter d'Égypte, nous ne savons pas ce qui est advenu de lui. Alors, on ne sait pas exactement combien de temps Moïse était parti, mais en tout cas, le peuple trouvait le temps long. Et le frère de Moïse, Aaron, qui est censé être un serviteur de Dieu, ne va pas exactement se montrer sous son meilleur jour dans cet épisode, et le texte le fait bien sentir. Peut-être qu'il craignait pour sa peau, il voit un peuple qui est de plus en plus impatient, et donc il a choisi de complaire à ce peuple. Alors il va récolter l'or des bijoux, en plus on voit que c'est lui quand même qui a cette idée, qui prend cette initiative, il le fait fondre, et il en fait un veau d'or, un taurillon, comme traduit la Nouvelle Bible Second pour faire original. En fait, un taurillon, c'est un veau, c'est la même chose. Il y a une perversion terrible, en fait, dans ce que fait Aaron. Il est censé être prêtre du seul vrai Dieu. Il a la vocation de conduire le peuple à la rencontre de Dieu. Donc Moïse avait celle de conduire le peuple vers la terre promise, mais Aaron avait, en tant que prêtre, la spécificité de conduire le peuple dans l'adoration, dans la présence de Dieu. Et à la place de cela, il va façonner une vulgaire idole. Un veau d'or. Au verset 5, on voit qu'Aaron va, bizarrement, il va essayer de récupérer un peu son idolâtrie. Et il va faire comme si c'était un peu pour Dieu quand même. Demain, il y aura une fête pour le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette phrase un peu étonnante dans le texte, alors qu'il vient de faire un veau d'or. Demain, il y aura une fête pour le Seigneur. En fait, ce n'est pas pour le Seigneur que cette fête aura lieu, et le texte le montre bien, c'est pour le peuple lui-même qui va simplement manger et boire, verset 6, et puis qui va s'amuser. Reste un peu mystérieux, mais en tout cas, il s'amuse. Donc on est très loin de l'adoration de Dieu. On peut être assez stupéfait devant une telle infidélité. Après tout, c'est la même génération qui a vu les plaies d'Égypte, qui a vu les miracles par lesquels Dieu les a libérés de leur esclavage, et ils ont déjà, semble-t-il, oublié ce que Dieu a fait pour eux. Alors, ça peut nous paraître vraiment bizarre. Mais on peut se demander si nous sommes si différents. Dieu a fait aussi de grandes choses pour nous, et nous avons malheureusement souvent tendance à l'oublier. Et nous avons surtout tellement tendance à vouloir contrôler notre vie nous-mêmes, contrôler nos aspirations. Et l'idée qu'un autre, avec un A majuscule, qu'un autre aurait le contrôle ultime de notre vie, spontanément, ça nous paraît très difficile à accepter. Avant que, peu à peu, par la grâce de Dieu, on ne découvre combien c'est magnifique d'appartenir à Dieu. Alors nos veaux d'or à nous sont peut-être un peu plus subtils que ceux du peuple dans le désert, mais ils sont bien là aussi. Alors parfois, comme à Aaron d'ailleurs, on va essayer aussi de les récupérer pour le Seigneur, de prétendre que c'est Dieu qu'on adore, alors que c'est plutôt un veau d'or que l'on adore. On va vivre avant tout pour l'argent, ou avant tout pour le travail, ou avant tout pour le bien-être, le bonheur, le plaisir, mais on va enrober ça dans un vocabulaire religieux, on va dire beaucoup Seigneur, on va dire beaucoup gloire, on va dire bénédiction, et puis on va estimer que ça peut être récupéré pour Dieu. Mais en fait, servir Dieu, ça veut dire abandonner le contrôle de sa propre vie. Ça veut dire qu'on renonce à construire le propre sens de notre vie pour accepter celui que Dieu nous donne. Donc le veau d'or, c'est une imposture, c'est une tromperie, c'est un pseudo-dieu que les Israélites ont construit parce qu'ils voulaient tellement contrôler leur propre destin. Et attendre comme ça le temps de Dieu pendant une période indéterminée, accepter que ils ne savaient pas exactement quand ils allaient sortir du désert, ils ne savaient pas comment ça allait se passer, etc. C'était trop difficile pour eux. Et ils préféraient reprendre le contrôle de leur vie et construire leur propre Dieu, tout en faisant comme si c'était quand même Dieu qu'ils adoraient. Et je crois qu'il y a là un phénomène, un mécanisme que nous avons tendance, trop souvent, par la grâce de Dieu, j'espère que pour nous qui sommes chrétiens, nous n'y passons pas notre temps à céder à cela, mais nous avons tendance à avoir peur d'attendre le temps de Dieu, à être très déstabilisé par le fait que c'est lui qui a le contrôle de notre vie et pas nous-mêmes, et à vouloir reprendre le contrôle. Peut-être plus subtilement qu'en construisant un veau d'or avec les boucles d'oreilles de ses amis, mais quand même en prenant soi-même ce qui appartient à Dieu. Et si nous venons à la rencontre du dimanche soir, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment pour rencontrer Dieu pour lui apporter un culte ensemble? Ou est-ce que c'est pour servir nos veaux d'or sous couvert de spiritualité? Ce que je dis là paraît peut-être un peu dur, et je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit de cela. Je suis le premier à entendre cette exhortation que je m'adresse aussi. Mais interrogeons-nous à ce sujet. Est-ce que notre vie d'église, pour nous qui allons régulièrement à l'église, et notre vie spirituelle sont au service de Dieu et soumises à lui? Ou est-ce que finalement ce sont des outils que nous cherchons à mettre au service de notre propre bien-être? Il est bon de se poser cette question assez régulièrement pour nous assurer que nous ne sommes pas comme les Israélites en train d'adorer un veau d'or, une imposture. J'en arrive à mon deuxième point, un avocat. Il y a quand même un élément très frappant dans ce texte, et j'imagine que vous l'avez relevé, c'est que Dieu se laisse convaincre par Moïse. Au verset 10, Dieu est révolté par la désobéissance du peuple. Et il dit à Moïse, « Laisse-moi faire, je vais me mettre en colère contre eux, je les exterminerai et je ferai de toi une grande nation. » On a presque l'image que Moïse doit retenir Dieu qui s'apprête à frapper le peuple. Et on a cette phrase frappante au verset 11, « Moïse chercha à apaiser le Seigneur. » Et là, notre réaction devant ce verset peut être la surprise, ou on peut être mal à l'aise. On peut se dire, mais est-ce que Dieu a vraiment besoin d'être apaisé? Est-ce que ce n'est pas quand même en dessous de lui? Est-ce qu'il n'est pas au-dessus de ça? Est-ce qu'il n'est pas au-dessus de telles réactions comme ça, spontanées? Je crois que ce serait une erreur tragique de penser que Dieu ne se met pas en colère. Même s'il s'agit d'un mystère, la colère de Dieu, on ne peut pas prétendre qu'on a compris ce que ça veut dire exactement, la colère de Dieu. Mais on peut dire que Dieu ressent des émotions, il ressent de la douleur, il ressent de la colère, il ressent de la joie. Et on voit bien dans le Nouveau Testament, lorsqu'on regarde Jésus, le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, on voit comment il réagit face aux événements. Ce n'est pas avec une sorte de détachement zen, c'est avec des émotions fortes souvent. Il suffit de le voir chasser les marchands du temple ou pleurer devant la tombe de son ami Lazare. Et ici, Dieu est en colère. Et il s'agit d'une colère juste, parfaitement légitime, de ces colères que nous ressentons parfois face à une trahison ou face à une injustice. Alors c'est vrai que Dieu, qui sait toutes choses, a toujours su et prévu qu'il accéderait à la demande de Moïse, qu'il se laisserait convaincre. Là, on est dans le mystère encore une fois. Mais évidemment que Dieu n'était pas surpris par ce que Moïse lui a dit. Et mystérieusement, il avait prévu de se laisser persuader en quelque sorte par Moïse. Et il y a là quelque chose de très frappant. Dieu entre avec nous dans une relation dynamique, authentique. Il souhaite que nous lui parlions, et même, j'oserais dire, qu'il souhaite parfois que nous cherchions à le « persuader », entre guillemets. Pas avec nos arguments propres, mais en nous reposant, comme Moïse l'a fait, sur ses promesses et sur sa révélation, pour montrer notre foi en lui. Que les choses soient claires, Dieu garde le contrôle total de la situation. Et ce qui confirme cela, c'est que Moïse, justement, intercède non pas avec des arguments qui seraient les siens, mais en se reposant sur les engagements que Dieu lui-même a pris à l'égard du peuple. Verset 13. « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en faisant un serment par toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel, et je donnerai à votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé, et ce sera son patrimoine pour toujours. » Quel Dieu extraordinaire nous avons. Il a le contrôle total et ultime de l'histoire et de notre histoire. Il ne nous doit rien du tout. Il n'a même pas besoin de nous. L'existence de Dieu est pleinement autosuffisante. Et pourtant, il a choisi d'entrer en relation avec nous et de nous donner des promesses fermes, des promesses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour le prier, pour nous reposer justement sur ce qu'il nous a dit, pour l'adorer et pour lui demander grâce. Juste un bref témoignage personnel, ça a été pour moi quelque chose de très fort dans ma propre vie de prière lorsque j'ai compris que je pouvais m'appuyer sur les promesses que Dieu lui-même donne dans l'Écriture, m'appuyer sur ces promesses, parce que je sais que puisque Dieu le promet, c'est qu'il le veut, et je sais qu'il va le faire, et je peux donc m'appuyer sur ces promesses pour lui demander des choses. Et elle a une immense richesse pour la vie de prière. Un petit exemple, lorsque j'ai commencé à réfléchir au fait de devenir pasteur, hein, c'était pas une réflexion très facile, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Une chose qui me faisait hésiter, c'est que j'avais l'impression de manquer d'amour. Alors je manque toujours d'amour, hein. Je suis pas arrivé au stade où j'aime parfaitement, mais de manquer d'amour et de manquer de pas assez m'intéresser à la vie des personnes autour de moi et de ne pas avoir un désir assez fort de voir des chrétiens grandir dans leur foi et de voir des gens venir à Dieu. Et je me suis rendu compte que Dieu veut que j'aie cela. Et la Bible me le dit clairement. Et donc je me suis appuyé sur les promesses de Dieu qui me dit que si nous lui demandons l'amour, il nous donnera l'amour. Et j'ai prié et peu à peu, il n'y a pas eu de grande vision dans la nuit, hein, mais peu à peu, Dieu m'a fait grandir et m'a aidé à avoir vraiment ce désir de voir les gens autour de moi grandir dans leur foi, ce désir de voir des personnes qui ne connaissent pas Dieu venir à lui. Et c'est vraiment quelque chose qui était une difficulté pour moi et qui l'est devenu beaucoup moins parce que j'ai compris que Dieu voulait que je le demande pour pouvoir me le donner. Il y a là quelque chose d'extrêmement puissant pour notre vie de prière. Mais je ferme cette parenthèse. Moïse va donc en quelque sorte rappeler ses promesses à Dieu. Il intercède pour un peuple qui pourtant, c'est très clair, ne le mérite pas et il obtient grâce. Verset 14, le Seigneur renonça au mal qu'il avait parlé de faire à son peuple. Donc Moïse a été l'avocat du peuple d'Israël, un avocat imparfait d'ailleurs. Ici, on ne le voit pas spécialement, mais on le voit à d'autres moments. Il a participé lui-même parfois aux errances du peuple. En revanche, des siècles plus tard, Dieu a envoyé un autre avocat, parfait celui-là, son propre fils, Jésus-Christ. Et j'en reparlerai dans quelques minutes. Mais en tout cas, si ce deuxième avocat a dû venir, c'est notamment pour résoudre une tension qu'on trouve dans tout l'Ancien Testament. D'une part, Dieu a promis qu'il délivrerait un peuple. Il a promis qu'il se réconcilierait avec ce peuple. Il a promis son pardon. Mais en même temps, Dieu, parce qu'il est parfaitement saint, parce qu'il est totalement opposé au mal, ne peut pas supporter le péché des hommes qu'il a créés bons et qui se sont détournés de lui. Il ne peut pas laisser le péché impuni. Et nous voyons cette tension d'ailleurs dans ce texte, dans le fait que Dieu fait grâce parce qu'il va laisser continuer le peuple. Il renonce à détruire le peuple dans son ensemble, mais il va quand même faire tomber un châtiment sur une partie du peuple. Versets 25 à 29, et c'est mon troisième point, un châtiment. On a des versets là qui ne sont pas faciles, hein, il faut bien le reconnaître. Et les adversaires de la foi chrétienne vont très volontiers s'appuyer sur ce type de texte pour dire, mais vous voyez, la Bible, ça contient vraiment des récits primaires, violents, qui mettent en scène un Dieu vengeur, primitif, qui aime couler le sang, etc., etc. Il est clair que l'épisode est rude. Moïse, qui semble mandaté par Dieu, le texte ne le dit pas très explicitement, mais ça semble être le cas, appelle tous ceux qui sont restés fidèles à Dieu et qui n'ont pas adoré le veau d'or à aller tuer ceux de leur parenté qui se sont prosternés devant le veau d'or. Le texte reste assez discret et sobre. Il ne rentre pas dans les détails, heureusement, de l'extrême violence qui est décrite ici. Mais on reste quand même avec cette question. Est-ce que vraiment Dieu a pu vouloir cela? Je ne prétends pas avoir de réponse facile et toute faite à cette question. Mais je pense qu'on peut quand même donner quelques éléments. Premièrement, il ne faudrait pas oublier que Dieu est tout autre, comme je l'ai dit au début. Il est notre Créateur. Il est incomparable à un être humain. Parce qu'il est notre Créateur, il a tout droit sur nous. La Bible nous dit qu'il maîtrise chaque instant de notre vie. Et Jésus, par exemple, va dire que pas un oiseau ne tombe du ciel indépendamment de la volonté de Dieu. Donc, à plus forte raison, si c'est le cas pour les oiseaux, c'est le cas pour nous. Et donc aussi, politiquement incorrect que ça paraisse, parce que là, on est dans le pur politiquement incorrect, après quelques siècles de philosophie humaniste, le Créateur a le droit de punir. Parce que justement, ce n'est pas un Dieu distributeur de canettes. C'est Dieu. C'est le Tout-Puissant. C'est le Dieu trois fois saint. C'est lui qui nous a donné tout ce que nous avons. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. Nous ne serions même pas là si ce n'était pas, s'il n'en avait pas pris la décision. Il a le droit d'ôter la vie qu'il a lui-même donnée. Et la révolte que peut-être nous ressentons spontanément face à cela vient sans doute du fait que nous pensons que notre vie nous appartient. Alors qu'en fait, elle appartient à Dieu et que, il faut bien le dire, nous sommes son bien. Alors, est-ce que pour autant Dieu est un Dieu qui agit n'importe comment, de façon arbitraire, au gré de ses humeurs? Tiens, eux, j'en ai marre, je les balaye, et puis par contre, j'en crée ici. Non. Parce que contrairement à nous, Dieu ne change pas, on l'a chanté tout à l'heure, et tout ce qu'il fait est parfait. La notion même du bien nous vient de lui. Hein, donc quand on dit, oh là là, si on a tendance à dire, c'est pas bien ce que fait Dieu là, quand on dit bien, on part de ce que Dieu nous donne. Donc il y a vraiment une contradiction. Ici, Dieu utilise des membres de son peuple pour supprimer certains hommes d'influence, sans doute, qui avaient perverti son alliance et qui avaient adoré le veau d'or. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, en définitive, pour le peuple, il s'agit d'un acte de salut, parce que Dieu veut ôter de son peuple ceux qui l'égarent en l'entraînant vers des idoles. Et puis, il faut bien insister sur le fait que nous sommes ici dans le cadre de l'ancienne alliance conclue au désert du Sinaï, une alliance temporaire que Dieu a voulu pour un temps, mais qu'il avait prévu depuis toujours de remplacer par une nouvelle alliance qui est fondée, elle, sur le pardon total de toutes les fautes, y compris les plus graves. Ce texte, évidemment, ne donne aucune justification à la violence faite par certains aujourd'hui au nom de Dieu, parce que ce jugement contre le mal, ce châtiment terrible de la mort que subissent les 3000 hommes dans le désert et que méritent nos péchés, en fait, c'est Jésus qui l'a subi à notre place. Donc ce n'est pas à nous aujourd'hui d'infliger un jugement à qui que ce soit ou de dire « Tiens, tu as adoré le veau d'or, tu mérites de mourir » parce que Jésus a subi cette mort à leur place. La question qui se pose, et c'est ça qui détermine notre jugement, c'est est-ce que nous avons accepté cette grâce, que Dieu nous offre ? Est-ce que nous avons placé notre confiance en lui ? Ou est-ce que nous préférons l'ignorer ou nous en détourner, quitte à se retrouver seul face au jugement de Dieu ? Et tout ceci m'amène au dernier point, une grâce. Dans ce texte, nous voyons une grâce partielle accordée par Dieu. Dieu avait exprimé devant Moïse son désir de voir, de faire disparaître le peuple entier. Et finalement, il n'en fait disparaître que certains hommes, peut-être parce qu'ils avaient été particulièrement actifs et influents dans la diffusion de l'idolâtrie. Mais la grâce se manifeste ici dans le fait que le peuple va pouvoir continuer à marcher vers la terre promise. Donc Dieu n'a pas annulé ses promesses, il n'a pas supprimé le peuple, et au contraire, il dit qu'il va envoyer son messager pour continuer à le conduire. Alors je ne rentre pas ce soir dans la question de qui est ce messager, etc., parce que ça nous emmènerait trop loin, mais on voit en tout cas que Dieu continue à s'occuper de son peuple. Mais Dieu ne peut pas pour autant rester insensible au péché. Il est impensable qu'il ne le punisse pas. Et là encore, ça nous surprend peut-être, mais en fait, ça devrait nous réconforter. Parce que si le Dieu de l'univers tolérait le mal, ce serait un drame incomparable. Nous n'aurions aucune possibilité de lui faire confiance, hein, face au mal qui est dans le monde. On pourrait dire, ah ben, il va peut-être tolérer ça. Il n'y aura peut-être aucun jugement parce qu'il va se dire que ce n'est pas si grave. Nous n'aurions aussi aucune assurance qu'il tiendrait ses promesses. Parce que s'il tolère le mal, peut-être qu'il ne va pas tenir ses promesses. Nous n'aurions aucune assurance que le mal qui existe dans ce monde sera un jour vaincu, comme Dieu ne cesse de le promettre dans la Bible. Et puis, il ne serait pas Dieu. Et donc, la sainteté de notre Dieu devrait au contraire profondément nous réjouir. Et le fait qu'il soit intransigeant face au péché est au contraire un puissant encouragement. Dans notre récit, Dieu va manifester les conséquences du péché en punissant donc une partie du peuple. Au verset 35, il est question d'un fléau. À mon sens, cela renvoie simplement à ce qui est raconté avant, au verset 25 à 29, lorsque les 3000 hommes sont morts. Au risque à nouveau de vous choquer un peu, je dirais que nous ne méritons pas mieux que ces 3000 hommes. Parce que nous aussi, nous avons à un moment donné dans notre vie, et peut-être que pour certains c'est encore le cas aujourd'hui, nous avons adoré un veau d'or qui a certainement un autre nom. Notre indépendance, notre bien-être, notre métier, notre argent, nos traditions, notre culture, notre conjoint, peut-être même nous-mêmes tout simplement. Mais Dieu a envoyé un second avocat qui a obtenu pour nous une grâce infiniment supérieure à celle que Moïse a obtenue. Comme nous l'avons dit, Jésus a accepté d'être la victime expiatoire, c'est-à-dire le bouc émissaire, littéralement. Enfin, pas littéralement, mais symboliquement, le bouc émissaire qui nous représente devant Dieu et qui a subi de plein fouet le jugement de Dieu contre toutes nos fautes, qu'elles soient personnelles ou collectives. Un pardon total, et mieux encore que cela, et c'est ce que Mario nous disait tout à l'heure, l'entrée dans la présence directe de Dieu, dans une relation qui ne nécessite plus de tente dans le désert, de temple, de rituel, de sacrifice, mais qui nous met en relation constante et éternelle avec notre Créateur et notre Père. Parce que Jésus est le Fils de Dieu, et parce que ce sacrifice ultime a été agréé par le Père, il a vaincu la mort par sa résurrection. Il est vivant aujourd'hui. Et vous savez ce qu'il fait selon la Bible ? Il intercède pour nous. De même que Moïse a intercédé pour le peuple, Jésus a intercédé pour nous. Mais contrairement à Moïse, c'est un avocat qui n'est pas lui-même compromis dans le péché. Et contrairement à Moïse, il est lui-même Dieu le Fils. Et donc c'est mystérieusement, là encore, Dieu qui intercède auprès de Dieu pour nous sauver. Celui qui avait le droit de nous supprimer, au contraire, décide de nous faire grâce et même, plus encore, de nous faire goûter à la joie éternelle d'une relation avec lui. Si la violence de cet épisode des 3000 hommes nous choque, combien plus encore doit nous choquer ce que Jésus a subi à notre place, non seulement par sa souffrance physique qui a été, c'est vrai, terrible, mais bien plus parce qu'il a subi spirituellement en acceptant d'être, pour un temps, maudit par Dieu, nous dit la Bible, pour que nous puissions être épargnés. Nous sommes là dans l'inconcevable, ou en tout cas ce qui n'est que partiellement concevable pour nous, dans l'incompréhensible, mais nous sommes appelés à accueillir par la foi ce don inimaginable. Vous me direz, on plane un peu haut là, qu'est-ce que ce texte change pour cette semaine qui vient, au bureau, à la maison, dans mes études, dans mes relations ? Ce qu'il change, c'est que nous sommes appelés à adorer non plus nos veaux d'or, mais le Dieu vivant. Ce qu'il change, c'est que nous sommes des hommes et des femmes qui sont connus personnellement par le Dieu de l'univers. Dire qu'on connaît Dieu, c'est déjà extraordinaire, mais quand vous pensez que Dieu nous connaît, c'est quelque part encore plus frappant. Il nous connaît personnellement. Nous sommes aimés par lui avec une intensité inimaginable. Lui, l'Éternel des armées, nous aime. Et il nous appelle à cette vocation magnifique d'être témoin de lui dans le monde. Et donc la question qu'on doit se poser, si nous sommes chrétiens, c'est mais est-ce que nous profitons pleinement de ce privilège incroyable ? Est-ce que, puisque nous sommes constamment accueillis par Dieu dans sa présence, est-ce qu'on discute avec lui de notre quotidien ? Puisqu'on a accès à lui tout le temps. Est-ce que nous nous reposons sur ses promesses, comme Moïse l'a fait, pour mettre notre foi en lui et pour lui demander de faire de nous l'homme, la femme qu'il nous appelle à être ? Est-ce que nous lisons régulièrement sa parole pour pouvoir mieux comprendre qui il est, pour pouvoir nourrir justement nos prières de sa révélation, de ses promesses, et pour pouvoir nous émerveiller devant cela et témoigner de lui d'une façon qui soit juste et fidèle ? Et donc face aux épreuves petites et grandes du quotidien, cette relation difficile avec tel collègue, cette tension dans ma famille, cette maladie peut-être d'un être proche, ce plan social qui guette mon entreprise, sans minimiser un seul instant la réalité de ces épreuves, plus ou moins grandes, rappelons-nous que le Dieu trois fois saint nous a accueillis chez lui, dans sa demeure. Même pas dans sa demeure, dans la tente, dans le désert, où seul le grand prêtre avait le droit d'aller une fois par an. Non seulement on a beaucoup plus de liberté que le grand prêtre, mais on est accueilli dans la véritable demeure de Dieu, dans sa véritable présence. Nous sommes invités simplement à le suivre, à marcher derrière lui vers la véritable terre promise, une nouvelle création d'une bonté et d'une beauté inimaginable qui nous attend au bout du chemin. Cette nouvelle création, cette autre vie avec Dieu, cette bonne nouvelle qui surpasse toutes les bonnes nouvelles, comment imaginer qu'on ne l'annonce pas à tous ceux autour de nous qui en ont tellement désespérément besoin ? Et si vous faites partie de ceux qui n'ont pas encore pris la décision de confier votre vie à Christ, je voudrais simplement vous demander si vous comptez vous priver encore longtemps de la grâce qu'il vous offre et de l'appel qu'il vous lance à vous réconcilier avec lui. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, tu as fait preuve d'une telle patience envers nous. Et même si nous avons adoré des veaux d'or de telle ou telle manière dans notre vie, tu nous pardonnes totalement si nous avons reçu par la foi ce pardon. Alors je te demande de t'adresser à ceux qui ne l'ont pas encore reçu ce pardon, pour qu'ils puissent comprendre que toute leur vie en dépend, non seulement sur cette terre, mais pour l'éternité. Je te prie pour qu'ils puissent comprendre que tu leur donnes quelque chose d'inimaginablement bon. Et pour nous qui te connaissons, Père, permets que jamais nous ne prenions à la légère cet extraordinaire privilège. Au nom de Jésus-Christ, amen. Mario m'a demandé de passer directement aux annonces, et donc on va le faire. Dans un instant. Voilà. Vous voyez la première annonce, c'est pas beau ça. Pizza ce soir. Voilà.